France Inter, le 18-20.
Je lui ai demandé sur l'ardoise si elle voulait une vieille photo de moi en prévision des opérations. Je voulais être utile. Elle a haussé les épaules, elle a dit « j'en ai pas besoin ». J'ai été surpris, j'aurais aimé lui dire « mais comment ça, vous voulez refaire mon visage et vous ignorez à quoi je ressemblais ?» Moi, je me croyais encore chez Photoshop. Cependant, qu'elle en sache autant et si peu pour moi ne me gênait pas, j'ai cessé d'y penser en m'abandonnant pour la première fois à ce sentiment dangereux et nécessaire, la confiance. Si j'ai choisi cet extrait du Lambeau pour nous lancer dans ce téléphone sonne ce soir, c'est parce qu'il résume assez bien. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris et que je l'ai ressenti, surtout la relation qui vous lie, qui vous a lié pendant 2 mois, qui vous lie encore, Philippe Lançon et Chloé, chirurgien maxillofacial, Chloé Berthelus, puisqu'évidemment, on va vous rendre votre nom de famille dans l'émission ce soir. Cet extrait donc parce que il vous définit bien finalement l'un l'autre, vous, Philippe Lançon, forcément en demande, forcément dépendant, on y viendra aussi, et vous, Chloé Berthelus, sans fioritures, sans affect, vous êtes chirurgien. Au fil et le milieu de cette, le fil au milieu plutôt, autour de cette confiance, le fil est indispensable et c'est celui-là, puisqu'à ce moment-là du récit, d'ailleurs, forcément, vous serez amené à vous revoir et vous revoir plusieurs fois. C'est donc cette relation-là qu'on a eu envie d'explorer avec vous ce soir, avec les auditeurs d'Inter, ce lien particulier qu'on ne comprend pas forcément d'ailleurs si on n'est pas passé longuement par l'hôpital, ce couple qu'on forme avec son chirurgien, ce lien de dépendance, le rapport à la douleur, à la vérité, à la séparation qui est nécessaire. Évidemment, c'est pas de l'amour, évidemment, c'est pas de l'amitié non plus. Pourtant, la relation est charnelle puisqu'on parle de chair entre vous, là, pour le coup, au premier sens du terme et entre vous deux. Puis au-dessus de tout ça, évidemment, la circonstance particulière qui est celle de l'attentat. C'est là-dessus qu'on a envie de discuter ensemble pendant presque une heure sur France Inter jusqu'à 20h. Et merci de partager ce moment avec nous.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Je vous salue avant de commencer. Bonsoir à vous, Philippe Lançon. Merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir, Chloé Berthelus. Merci aussi d'être avec nous. Daniel Messager nous accompagne, qui est la spécialiste santé de France Inter. Et c'est vous, Jean-Louis, vous êtes au Mans, qui allez démarrer. On vous écoute. Soyez le bienvenu.
Je vais essayer de dominer mon émotion parce que franchement, bonsoir Philippe Lançon, bonsoir Chloé. J'ai lu votre livre, Philippe Lançon. Je voudrais vous exprimer mon profond respect pour la dignité avec laquelle vous racontez votre vie, avec courage, sans fanimosité, et on pourrait énumérer plein d'autres mots. Je l'ai beaucoup recommandé autour de moi, et donc je pense qu'on ne peut que vous remercier très profondément, mais en même temps, quand on ferme le livre et qu'on apprend, enfin qu'on a fermé le livre il y a déjà plusieurs mois, et qu'on apprend que vous allez être à l'antenne, on ne résiste pas à la question « comment allez-vous ?» Est-ce que fonctionnellement, vous avez retrouvé toute votre facilité d'utiliser votre visage ?
Merci beaucoup Jean-Louis, merci pour le coup de fil, merci pour l'émotion aussi qu'on a sentie avant que vous répondiez. Philippe Lançon, moi cette émotion de Jean-Louis, elle m'intéresse et je la trouve jolie. C'est ça que ça provoque ce livre en fait, c'est ce genre d'émotion-là. Est-ce que vous pouviez vous en douter en fait quand vous racontez cette histoire ?
Non, d'abord, merci à Jean-Louis pour son témoignage de lecteur. Non, je ne pouvais pas m'en douter et je ne m'en doutais absolument pas dans la mesure où, d'une part, quand on écrit, on est seul. Et à l'intérieur d'une expérience comme celle-ci, qui fait que je ne me posais pas la question de savoir à quel point ça pouvait toucher les gens. Je ne savais pas qui étaient les gens. Je ne savais pas longtemps si j'arriverais au bout à terme de ce livre. Donc non, je ne m'en doutais absolument pas.
On écrit toujours pour être lu, évidemment, mais ce genre de livre, on l'écrit avant tout pour soi, non ? Peut-être de toute façon, c'est votre ultime sortie de cette reconstruction.
C'est ambigu. On écrit pour. C'est un trop gros effort. On écrit pour être lu. J'écrivais pour être lu, mais je ne savais pas ni par qui, ni quand, ni comment. Et d'autre part, j'écrivais aussi pour moi avant tout, bien sûr, pour essayer de faire un récit de ce que j'appelle moi une traversée.
Je voudrais qu'on réponde concrètement à la question de Jean-Louis, comment ça va aujourd'hui ?
Mieux. Alors pour répondre effectivement à sa question, j'ai retrouvé depuis un certain temps déjà à peu près toutes mes fonctions, sachant que je suis encore dans un parcours chirurgical, même si il est beaucoup plus allégé et moins compliqué qu'il n'a été les premières années.
Ça veut dire que vous vous revoyez tous les deux, Chloé Berthelus, vous vous revoyez souvent ou pas? Ou beaucoup moins souvent? Est-ce que vous le confiez à d'autres, du coup, maintenant qu'il est quasi réparé?
Voilà, la partie de réparation qui est en cours me concerne un tout petit peu moins, puisque j'ai fait le gros du travail, si j'ose dire. Il nous reste néanmoins quelques petites choses à terminer, et on le fera dès que possible.
Est-ce que les relations, vos relations ont changé, du coup, la manière dont vous vous parlez désormais, le fait que, est-ce qu'à chaque fois qu'il vient à l'hôpital, vous vous croisez, ou c'est, même ça, c'est plus la peine, en fait, tout simplement?
À chaque fois, je ne suis pas sûre, il m'arrive d'être un peu occupée.
Pas forcément. Vous avez d'autres patients, vous voulez dire?
C'est possible. Et donc, à chaque fois, certainement pas. Mm-hmm. Mais oui, on se voit fréquemment et on se croise dans les couloirs, parce que je ne sais pas forcément quand Monsieur Lançon est là, quand il est confié à d'autres collègues pour d'autres gestes chirurgicaux, je ne suis pas nécessairement au courant.
Philippe, vous la cherchez, vous, ou vous avez fini de la chercher? C'est terminé, en fait,
non,
cette phase-là.
Non, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Chloé. Il m'arrive assez, pas toujours, mais très régulièrement, quand j'y vais, de lui envoyer un texto pour lui dire que je suis dans les murs. Voilà. Et auquel cas, on peut éventuellement se croiser, mais elle peut être au bloc, elle peut ne pas être là, vous voyez. Donc, et par ailleurs, pour fixer un peu le cadre de notre relation pour les auditeurs, c'est la première fois depuis une exposition où j'avais invité Velázquez en
depuis
mars
Velázquez,
2015,
oui.
Qu'on se voit à l'extérieur de l'hôpital.
Ah, oui.
Notre relation est circonscrite à l'hôpital.
Et Velázquez, c'était fin 2000...
Mars 2015.
Mars 2015, donc effectivement. On va retourner au standard parce que je veux vraiment que les gens puissent vous poser des questions. J'ai quand même une question pour vous avant, Chloé Berthelus. Est-ce que vous comprenez pourquoi tout le monde ne peut vous appeler que Chloé, en fait, et pourquoi vous êtes devenue indissociable de ça, en fait, ce personnage-là, Philippe Lançon et Chloé? Au final, par exemple, nous, quand on a raconté ici, à France Inter, qu'on allait vous recevoir tous les deux, plusieurs fois, notamment avec Daniel, on disait, il y aura Philippe Lançon et sa chirurgienne. Et tout le monde disait, ah bah oui, Chloé. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez perdu votre nom de famille, en fait? Pourquoi vous êtes autre chose que le chirurgien maxillofacial que vous êtes en réalité?
Je pense que c'est ce qui se produit quand on a la chance, ou en tout cas l'heure, de devenir d'une façon ou d'une autre le personnage d'un récit. On en perd forcément une partie de sa personnalité pour acquérir une personnalité réinventée par l'auteur, en tout cas réinterprétée par l'auteur.
Vous êtes reconnu quand même dans ce qu'a écrit Philippe ou pas?
En partie forcément, mon entourage m'a reconnu en partie forcément, ça a créé du débat, incontestablement.
C'est drôle, hein.
C'est pas commun comme expérience de se lire longuement décrite. C'est pas quelque chose de très simple, il faut le reconnaître. Et on en prend parfois un petit peu pour son grade. Des gens de ma famille très éloignés du monde médical m'ont dit « mais tu n'es pas gentille avec lui à la fin ». Je leur ai expliqué que mon travail ne consistait pas nécessairement exclusivement à être gentil et qu'il y avait des choses qui devaient être faites et des choses qui devaient être dites pour que la guérison avance et que la gentillesse n'était pas nécessairement ma qualité première dans l'existence d'ailleurs.
Et ben voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Philippe Lançon, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on le sent le côté parfois, pardon, pet-sec de votre chirurgienne, pardon, on l'entend parfois, mais c'est pas grave, en fait. On sent bien que c'est pas grave dans votre relation au fil de ce livre. Et puis, j'ai presque envie d'ajouter autre chose, il y a le contexte aussi. Celui de l'attentat, celui de tout ça, qui fait que de toute façon, vous n'êtes pas un patient comme un autre, la chirurgienne n'est pas une chirurgienne comme une autre, et votre histoire n'est pas une histoire comme une autre.
Je pense que objectivement, j'étais pas un patient comme un autre du fait du contexte. Mais par ailleurs, et je pense que Chloé pourrait en parler, je pense que j'étais aussi un patient comme un autre en même temps. C'est-à-dire que un chirurgien, et en particulier évidemment Chloé, et j'en ai vu d'autres aussi, pour eux, il faut que je sois un patient comme un autre, bien entendu, de même que les autres doivent être des patients comme les autres, parce que on peut pas. C'est un lieu d'urgence, un lieu très compliqué, et où les gens souffrent, et où ils ont besoin de, que les chirurgiens donnent le maximum de ce qu'ils peuvent à chacun d'entre eux. Mmh. Donc, vous voyez, je pense que c'est... Les deux ont joué, c'est-à-dire psychologiquement, il a pu arriver... Et puis aussi du fait du temps que j'ai passé tout à fait exceptionnel dans cet endroit. Effectivement, à un moment donné, j'ai dû plus ou moins m'installer dans le statut de mascotte.
On y viendra, mais
malgré moi, malgré eux, malgré tout le monde, ou à cause de moi, j'en sais rien. Enfin, voyez. Mais d'un autre côté, sur le plan purement chirurgical, je restais, je crois vraiment, et ça ne m'est jamais sorti de l'esprit, un patient comme un autre.
Et chaque patient, Chloé Berthelus, a la même importance, évidemment, au bout du compte, ou pas?
Alors, il est certain que les circonstances qui ont entouré l'arrivée de Philippe Plançon dans le service sont celles qui ont marqué toute la France. Mmh. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé le jour des attentats de Charlie Hebdo. Chacun savait ce qu'il faisait, voilà. Et il est certain qu'il y a là une émotion, celle qui a mis des millions de personnes dans les rues quelques jours après, que nous avons tous ressenti, évidemment, et moi comme les autres. Mmh. Donc là, à l'évidence, les circonstances sont particulières. On a d'autre part en face un patient qui est capable d'exprimer ce que probablement tous les autres patients vive. Et voilà quelqu'un qui a transformé son expérience d'une façon extraordinaire. C'est une sublimation qui vaut la peine d'être vécue. Et le succès de ce livre le traduit bien. Mais l'expérience elle-même, je pense que tout le monde n'a pas le talent et la maîtrise pour la raconter de cette façon, mais elle n'est probablement pas très différente. Donc, un patient comme les autres, bien sûr, ce qu'on a l'habitude de dire à nos patients, enfin, ce que j'ai l'habitude de dire à mes patients, c'est on est dans la même barque et on rame ensemble. Il y a forcément un lien très fort qui se noue pour ces chirurgies, mais je pense que c'est le même qui se noue entre quelqu'un qui transplante un foie et son patient, et entre quelqu'un qui refait un visage et son patient. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas d'exclusive du tout à ce type de chirurgie. Ce lien-là, j'ai l'habitude d'en parler de cette façon-là à mes internes ou à mes jeunes chefs de clinique. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un pour la première fois, c'est le 15e patient de la consultation. Il a par exemple un cancer comme les 14 premiers. Vous, c'est le 15e cancer de la journée. Lui, c'est son cancer. Ça va être l'histoire de sa vie dans les années qui viennent. C'est peut-être, hélas, la maladie qui va l'emporter. Donc, vous êtes avec lui et exclusivement avec lui.
Daniel.
Oui, j'avais envie de rebondir justement sur cette relation parce que très souvent, les patients s'expriment dans cette relation particulière qu'ils ont eue avec leur médecin, dans ce moment si particulier qui vous a uni parce que vous l'avez reconstruit, effectivement. Il y a un moment, Philippe Plançon, vous écrivez « Tout ce qui venait de Chloé me fortifiait spécialement, mais ce qui m'unissait à ma chirurgienne était d'ordre vital et non sentimental. » C'est bien la vie que vous avez apportée aussi dans cette reconstruction. Mais on n'a pas l'habitude de demander au médecin ce que ça lui apporte à lui. Ce que vous dites, hein, le patient a une relation très particulière parce que pour lui, le médecin, le chirurgien est unique, c'est lui qui a composé ça. Mais le médecin, lui, qu'est-ce qu'il en retire, qu'est-ce qu'il en garde, puisque des patients, finalement, même si celui-ci est unique, il en voit plein, oui.
Qu'est-ce qu'on garde de chaque relation avec chaque patient?
Oui, qu'est-ce que ça vous apporte en plus?
Alors, on doit nos soins à nos patients, d'accord? Donc avec chaque patient, on a une relation d'empathie. Et c'est ce qui nous nourrit et ce qui nous justifie. C'est cette relation au patient que personne ne nous enlèvera jamais, hein, qui est la justification de notre métier. C'est on aide quelqu'un dans la vie. Voilà. En s'intéressant aux autres et en aidant les autres et en reconstruisant en l'occurrence les autres, eh bien, on s'éloigne un peu de sa propre finitude peut-être, je ne sais pas.
Chacune vous nourrit pour la suivante?
Bien sûr. Et pour chaque patient, y compris quand le pronostic est éventuellement très sombre, hein, on parlait de cancérologie il n'y a pas très longtemps, on sait que pour celui-là, ça va marcher.
Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Nathalie, allez-y.
Oui, bonsoir donc toute l'équipe de Téléphone Sonne et bonsoir Monsieur Lançon. Bonsoir aussi, docteur Berthelus. Voilà, j'ai, alors comme le précédent auditeur, je suis très émue. J'avais lu toutes vos chroniques post-attentat dans Charlie Hebdo et j'aurais bien voulu, comme beaucoup de Français, vous exprimer tout mon soutien, mais bon, par pudeur, j'ai pas osé à l'époque. Et puis, il y a 3 mois, je suis passée moi aussi de l'autre côté du miroir, parce qu'on m'a détecté un cancer du sein. D'ailleurs, je tenais justement à remercier mon docteur, le docteur Achille, et toute son équipe en passant. Et comme j'ai beaucoup de temps libre, j'ai eu l'occasion d'écouter pas mal France Inter et de découvrir que vous avez écrit Le Lambeau. Donc j'ai lu votre livre, je me suis précipitée, comme beaucoup de personnes en France, j'imagine. Et je voulais vous dire que, outre le formidable moment de lecture, votre livre m'a permis de relativiser aussi ce qui m'arrive. Je voulais vous remercier, monsieur Lançon. Alors ma question, parce que j'en ai quand même une.
Allez-y.
Est-ce que, monsieur Lançon, lors de votre parcours hospitalier, vous avez eu tout de suite l'idée d'écrire votre récit, et dans quelle mesure cela a-t-il participé à vous aider à traverser cette période particulière?
Ben, merci de votre question. Il y a eu deux temps. Le premier temps dont vous parliez, c'était les chroniques dans Charlie, qui étaient effectivement des chroniques. Moi, je suis journaliste au départ, à la base. Et donc, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire j'ai appliqué, mais là, en l'occurrence, à mon propre cas et au cas de ceux qui m'entouraient, dont les soignants, dont Chloé, l'observation et, si possible, la description en léger différé, semaine après semaine, de ce que je vivais. Et là, effectivement, je pense que ça m'a aidé à affronter ce dans quoi j'étais, puisqu'il y avait quand même des chroniques que je pouvais écrire avant de descendre au bloc, ou quasiment en remontant.
Et vous l'avez fait assez vite, d'ailleurs.
Comment ?
Et vous l'avez fait assez vite, vous avez recommencé à écrire
assez vite. Oui, j'ai recommencé vraiment, et j'en ai fait dans des conditions presque rocambolesques, qui en dit long sur ce que c'est que le travail de l'écriture. C'est-à-dire quand Proust disait que c'est vraiment le produit d'un autre moi, que c'est véritablement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et dans un deuxième temps, qui est venu plus de deux ans après, il y a eu le travail sur le livre, qui est d'un tout autre ordre. C'est-à-dire que le travail n'a été possible que ce travail-là, qui est un travail d'écrivain, je pense, et moins de journaliste, parce que la réparation était suffisamment avancée. D'ailleurs, je me souviens d'en avoir parlé un jour avec Chloé dans son bureau, et elle m'avait dit « c'est trop tôt ». Je lui ai dit, j'y arrive pas. Elle m'avait dit, vous êtes encore dedans, alors comment vous pensez pouvoir y arriver? Et donc, en fait, il a fallu encore un peu de temps pour me mettre à écrire, à surplomber absolument toute la scène, quoi. Donc, il y a vraiment deux temps d'écriture très, très différents et qui vont vers des résultats tout à fait différents, à mon avis.
Il y a autre chose que j'entends dans la question de Nathalie qui dit que ça l'a aidé, elle, à relativiser. Moi, je suis frappée en vous lisant par votre adaptabilité, en fait, à l'hôpital. Vous disiez tout à l'heure, vous étiez resté effectivement extrêmement longtemps, mais on a vraiment le sentiment que d'emblée, vous êtes dans un univers qui ne vous effraie pas, qui ne vous enferme pas, qui ne vous rebute pas, ce qui serait le cas de n'importe quel autre patient, en fait, peut-être.
Je pense que c'est pas du tout un univers qui me rebute, et même, je dirais pas qui m'attire, mais c'est un univers qui m'est en tout cas devenu très vite très familier. Évidemment, les circonstances dans lesquelles j'y suis entré et les premières semaines en particulier extrêmement intenses que j'y ai vécues ont fait que cette familiarité a pu se développer. D'autre part, j'ai toujours dit et pensé que mon métier de journaliste m'avait préparé à ça. Ça ne veut pas dire qu'il aurait préparé tous les journalistes à ça, mais en tout cas, moi, je sens vraiment qu'il m'a préparé à ça. Ensuite, il y a eu cette équipe, et après, il y a toujours ce côté, parce que c'était elle, parce que c'était moi, parce que c'était cette équipe, à cet endroit, à ce moment-là. Il n'y a pas une seule explication au fait que finalement, quand je retourne dans cet hôpital, et j'y retourne quand même très souvent, et dans d'autres hôpitaux aussi, je dirais pas que je m'y sens comme chez moi, mais quasiment.
Ça veut dire que, quand vous parlez de votre expérience de journaliste, quand on est journaliste sur des terrains compliqués, on est capable de s'extraire de la situation dans laquelle on est, en fait, et d'être spectateur de ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire que parfois, le journaliste en vous et l'écrivain en vous avaient cette capacité à s'extraire de lui-même et de s'observer, en fait, dans ce parcours de reconstruction qui a été le vôtre?
Ah oui, et en particulier dans les situations les plus difficiles. C'est là que, justement, ça se joue. Où effectivement, il y avait, quand à un moment donné, vraiment, j'avais l'impression que je n'en pouvais plus, il y avait véritablement, si on était au cinéma, il y aurait une espèce de silhouette qui se détacherait de moi et qui me surplomberait et qui serait en train d'observer la scène dans laquelle je suis. En général, avec, j'espère que les lecteurs y sont sensibles, avec un certain comique aussi. Parce qu'il y a des comiques de situation, aussi tragiques que, ça soit, qui sont réels hein, et permanents, en vérité.
Chloé Berthelot, je vous voyais approuver avec la tête. Ça se sentait qu'il était dans cet état d'esprit-là, le patient Philippe Lançon, capable effectivement de s'extraire et d'être moins prisonnier peut-être effectivement de l'hôpital que peut-être certains d'autres patients qui sont les vôtres. Ou même prisonnier de sa cicatrice et de son lambeau, en fait.
J'ai eu l'impression très tôt que... Enfin, c'est comme ça que je me suis expliqué les choses, mais c'est peut-être... que le fait d'avoir en face de moi un homme qui était, après tout, critique de théâtre, faisait de Philippe Lançon quelqu'un capable, effectivement, de prendre du recul par rapport à la scène qui se déroulait devant lui, et capable d'aller très loin dans l'explication de ce qui se passait, avec le détachement du critique. Et pour moi, c'était évident.
Mais est-ce que ça veut dire que, du coup, le chirurgien que vous êtes explique différemment qui va se passer, ce qui va se passer pour lui, la douleur, la souffrance, les différentes étapes, y compris très techniques?
Je ne crois pas. J'ai pour habitude de répondre aux questions que les patients me posent. Donc, de m'adapter aux questions des patients. Alors, évidemment, si le patient pose des questions très poussées, très pertinentes, il va avoir des réponses plus détaillées que quelqu'un d'autre qui ne souhaite pas forcément savoir exactement comment les choses vont se passer, quelle va être la durée des différentes étapes, parce que quand on annonce plusieurs années, ça fait très peur. Certains patients ne veulent pas l'entendre. Eh bien, je ne suis pas là pour leur asséner ça. On répond aux questions qu'on nous pose.
Et Philippe Lançon était du genre très très curieux ou pas?
Assez. Assez, mais jamais de façon insupportable. On était là pour répondre.
Comme vous dites, vous répondez aux questions qu'on vous pose, Daniel.
Curieux et bavard aussi, peut-être, parce que il y a un passage où vous dites, en parlant de vous, docteur Berthelot, elle n'avait jamais entendu le son de ma voix. C'est quand on vous enlève la canule, mais elle savait que j'étais bavard, donc ça, elle s'en doutait aussi. Moi, je voulais vous demander si vous avez...
J'étais bavard par écrit.
Par écrit, oui.
Avant de l'être à l'oral.
Je voulais savoir si vous avez vu changer cet hôpital pendant les trois ans où vous avez fait des séjours aussi longs. On loue à juste titre le savoir-faire français, la technicité, et vous en êtes la preuve. Mais est-ce qu'au quotidien, vous avez vu aussi les difficultés, cet hôpital changer depuis quelques années, parce qu'on entend beaucoup aussi les plaintes des soignants?
Alors, c'est compliqué de vous répondre clairement parce que je quand j'y retourne, maintenant, même quand j'ai encore des blocs à subir, je n'y reste pas longtemps. Et donc, ma situation n'est plus celle de quelqu'un qui a passé quasiment trois mois sans interruption. Vous voyez, ça, c'est une première chose. Ceci étant dit, comme je connais quand même des gens dans ce service qui me parlent quand j'y vais, j'ai le sentiment qu'effectivement, la situation, non pas sur le plan des soins proprement dit, mais dans les conditions de travail, j'entends les gens se plaindre plus qu'ils ne se plaignaient il y a trois ans. Ça, c'est sûr, à la fois l'organisation, peut-être le manque de personnel ou de moyens à certains moments. Ça, j'ai entendu très nettement les choses évoluer, en tout cas au plan du discours. Moi, je peux parler de ça. Et tout en sachant, je pondère ça du fait que ce sont des métiers difficiles. Et quand je dis c'est les métiers, c'est pas seulement chirurgien, c'est aide-soignant, infirmière, infirmier, etc. Et donc, il y a des mamans, la plainte sort, parce que vous voyez, c'est difficile. Et si les gens qui font ces métiers ont l'impression, comme c'est souvent le cas, à un moment donné, que la hiérarchie ou l'administration ne leur donne pas quand même la reconnaissance auquel ils estiment avoir droit, et je pense auquel ils ont absolument droit, alors effectivement, tout ce qui ne va pas ressort très violemment. Et ou en tout cas ressort de manière soit diffuse, soit violente. Et ça, j'en suis témoin depuis, un an et demi, nettement. Ouais.
Bonsoir Marie-Françoise.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui.
Allez-y, prenez votre temps, respirez un grand coup.
J'ai lu avec énormément de passion
le livre de Monsieur Lançon. Je suis infirmière anesthésiste moi-même et j'ai eu souvent affaire à des gros malades de chirurgie maxillofaciale. Et je me doute... Excusez-moi.
Non, mais je vous en prie. Mais on a tout notre temps.
Je me doute de ce qu'il a subi. De ce qu'il a subi, de ne pas pouvoir parler. Et je suis heureuse de l'entendre parler. De ne pas pouvoir s'exprimer, ainsi que de ne pas pouvoir d'emblée savoir ce qu'il allait lui arriver petit à petit. Si ce n'est des gens... Enfin, des incapacités totales de s'exprimer. Et j'aurais voulu poser une question à son chirurgien, Chloé, parce que je trouve que c'est une... excusez-moi, parce que c'est une chose que je retrouve souvent dans le milieu des chirurgiens, que je connais bien. On ne prévient pas. Et Chloé en a un petit peu parlé tout à l'heure. On ne prévient pas le malade tout de suite de tout ce qu'il va subir, évidemment. Mais je trouve que ce serait beaucoup plus vivifiant pour le patient, pour sa famille qui doit l'entourer, de savoir quelle est la démarche, que le lambeau ne sera pas replacé dans les 15 jours ni dans les 6 mois qui viennent, qu'il y aura peut-être 10 interventions, que peut-être sa vie sera changée pour le restant de ses jours, que peut-être, voilà, vous voyez tout ce que ça met comme point d'interrogation.
Marie-Françoise, on va évidemment donner la parole à Chloé Berthelus. Moi, du coup, j'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que ça veut dire que vous avez vu, vous, des patients qui se tournaient vers vous et qui vous posaient à vous ces questions-là parce qu'ils avaient le sentiment qu'on ne leur avait pas donné assez de réponses ou pas ?
Exactement.
D'accord, c'est un peu ce dont je me doutais, effectivement, c'est pour ça que la question vient. Réponse Chloé Berthelus. Est-ce qu'on n'en dit pas assez, finalement, sur l'après ?
Bonsoir madame. Le problème de la communication entre les médecins et leurs patients est c'est la bouteille à l'encre, hein. On n'en finirait pas. Il est certain que dans des situations de traumatisme violent, comme celui qu'a subi Philippe Lançon, lorsqu'on reçoit le patient, on ne sait pas quel va être son parcours. En fait, tout bêtement, on fait le bilan des lésions, on fait les premiers pansements, et on ne sait pas quel va être le parcours. Par exemple, comme il l'explique très bien dans son livre, il n'était pas nécessairement question d'emblée de reconstruire sa mandibule avec un lambeau libre de péroné. On avait remis, lors de la première intervention, les fragments d'os présents en place et on avait un semblant de mandibule assez convenable qui aurait pu, avec un peu de chance, si j'ose dire, cicatriser de cette façon, ce qui lui aurait épargné la suite de son parcours. Malheureusement, vous le savez aussi, avec les armes à feu, se déclenchent des brûlures et des infections et l'os n'a pas survécu à ce traumatisme, et on a dû à ce moment-là décider de réaliser cette reconstruction par un lambeau libre. Mais en fait, on ne sait pas. C'est vraiment le work in progress. Mmh. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses se font, on essaye d'être le plus clair possible avec les patients et leurs familles, mais dans la limite de ce qu'on sait.
Chloé bricole avec ma mâchoire, c'est ce qu'écrit Philippe Lançon moment, et pas méchamment du tout. Non, mais il n'y a aucune méchanceté dans cette manière de le dire. C'est aussi une manière d'expliquer, bah oui, on cherche.
Absolument.
Et ça aussi, vous l'expliquez très bien, Philippe Lançon. On cherche. Vous arrivez, vous êtes un cas à part, finalement.
Je pense que, oui, dans le service en question, il y a beaucoup de cas à part. Hein. Mm-hmm. Et donc des cas très durs, intenses, que ce soit des cancers ou des gens qui se sont tirés une balle dans la tête. Enfin, il y a des choses vraiment terribles. Mm-hmm. Hein. Et j'ai été une de ces choses, de ces patients terribles. Mais par rapport à la question que posait l'auditrice...
Vous aviez un manque, vous, que décrit Marie-Françoise, un manque d'infos ou pas ?
Oui, il y a des moments, j'ai éprouvé en tout cas ce manque, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en fais état dans le livre et ça a créé des tensions qui ont été... Je pense qu'on était... On se parlait suffisamment pour que les tensions soient vite résorbées. Mais bien sûr qu'elles existaient. Après, moi, par rapport à parce que on disait, le problème, c'est qu'il y a savoir effectivement quel va être le parcours, et comme l'a dit Chloé, je pense effectivement ça évolue en fonction de l'état des tissus, des muqueuses, etc. Mais d'autre part, il y a la vérité que j'étais capable d'entendre
bien sûr.
À certains moments. Peut-être que je ne suis pas sûr que au moment où, par exemple, elle a fait certaines opérations, même après que j'ai eu il y a pas si longtemps de la prothèse d'expansion. Qu'il était bon de me dire dès le départ que j'allais quand même en baver des ronds de chapeau pendant 3 mois. Je pense qu'en fait, elle a eu raison de, non pas de sous-estimer, mais de me cacher une partie des effets de certaines opérations. Me cacher n'est pas le mot, disons de ne pas insister dessus. Voilà.
Est-ce qu'il y a une tentation, Philippe Lançon, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile à vivre pour le chirurgien, est-ce qu'il y a une tentation d'aller demander un avis à quelqu'un d'autre à un moment, parce que ça fait mal, parce que vous savez pas combien de temps ça va durer, parce que finalement vous avez des questions sans réponse, parce qu'il y a des choses que vous n'osez pas demander à celle qui vous connaît aussi bien. Est-ce qu'à un moment, il y a cette tentation-là, en fait?
Oui, oui, bien sûr qu'il y a cette tentation. Alors, moi, je l'ai quand même très, très peu éprouvée, en vérité, pendant les 3 premiers mois de la salpêtrière. Et elle prenait une forme très particulière, c'est-à-dire que j'allais plutôt pêcher des informations qui étaient... Vous voyez, le monde de la chirurgie dur comme ça, intense, c'est un monde où on n'entend pas les choses qu'on voudrait entendre. Ouais. Voilà. Et donc, on voudrait être guéri, on voudrait ne pas souffrir, on voudrait ceci, on voudrait cela, et on voudrait que ça aille vite. Donc, tout ça, c'est pas possible. On va pas être guéri, ou on va l'être très lentement, on va souffrir, ça va pas vite. Ça va très lentement. Donc, effectivement, je pêchais auprès des infirmières des informations, ou qu'elles ne me donnaient d'ailleurs pas, et éventuellement auprès de d'autres chirurgiens de manière plus ou moins biaisée, vous voyez, en essayant de jouer au malin, en me faisant plaindre, etc. Oui, bien sûr que ça m'est arrivé. Et je connais d'autres patients qui ont été victimes d'autres attentats, qui ont eu plus que la tentation, qui sont allés voir d'autres chirurgiens. Ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, vous voyez.
Et vous aussi, Chloé, vous dites.
Donc, il se trouve que.
Surtout que j'imagine qu'il vous appelle après l'autre chirurgien. Donc au fond, ça se termine en boucle, non ?
Ça, je n'en sais rien. Moi, il se trouve que je ne l'ai pas fait, finalement. Donc je ne l'ai pas fait.
Daniel.
Et puis ce qu'on ne dit pas aussi, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas que le patient ait une représentation trop claire de ce qui ne sera pas forcément ce qui sera abouti, en fait. Peut-être lui, il a une représentation, si vous donnez trop de... détail, vous allez lui en imposer une autre et ce ne sera pas forcément la bonne qu'il verra ensuite dans son miroir. Quand par exemple, je pense à un médecin qui vous dit vous êtes content, vous avez un menton, vous n'en aviez plus, c'est mieux que rien, et que vous n'avez pas l'air si content que ça finalement, c'est parce que c'était pas la représentation peut-être que vous imaginiez. Donc il ne faut pas, vous, par trop de détails, l'imposer cette image.
En fait, on n'a jamais beaucoup parlé de résultats, je crois, ensemble. Le premier but que l'on poursuivait, c'était de reconstruire une mâchoire dans laquelle on allait pouvoir mettre des implants et mettre des prothèses dentaires pour remanger. C'était refermer la lèvre qui a eu beaucoup de mal à se refermer. Je ne trahis pas grand-chose en disant ça, c'est écrit en long, en large et en travers. Donc on avait des buts techniques. Je crois que nous n'avons jamais réellement parlé d'apparence parce que en fait, la chirurgie reconstruit avant tout une fonction en la matière. Et puis, bien entendu, une fonction avec une anatomie la plus proche possible de l'anatomie avant le traumatisme. Mais on n'a jamais dit « je vais vous refaire le menton que vous aviez ». D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres.
Ah ouais.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos photos d'avant ? C'est pas la question. On a refait... grâce à ces fragments d'os dont je parlais tout à l'heure et qui étaient présents le jour du traumatisme et qu'on avait remis en place dans un premier temps, on avait une idée de la forme de la mandibule initiale, grâce à cette idée, on a pu donner une forme au péroné qui s'approchait de la mandibule initiale. Mais à part ça, on n'a rien.
Et vous avez cette phrase d'ailleurs que j'ai trouvée formidable. La tentation du chirurgien, c'est d'aller le plus loin possible, de s'approcher de retouche en retouche du visage idéal. Évidemment, on n'y arrive jamais et il faut savoir s'arrêter. En effet, comme vous dites, c'est une fonction qu'on remet en place. En fait.
C'est une fonction et puis forcément, quand on remet la fonction en place, l'anatomie se rapproche de plus en plus de la
normal. On ne voit pas, mais je fais des guillemets autour de normal.
On a entendu les guillemets.
Le but, c'est de recréer quelque chose qui fonctionne. D'avoir un patient qui puisse parler, déglutir,
mordre,
s'alimenter en public dans la mesure du possible, sans être trop gêné. Mm-hmm. Et puis même si c'est pas encore parfait, un moment ou un autre, on y arrive. C'est ça ce qu'on cherche à faire. Donc ce sont ces buts-là qu'on présente aux patients. Et je crois que c'est vraiment de ces choses-là qu'on a eu l'occasion de beaucoup discuter. Mais on n'a jamais dit votre menton aura telle forme, mm-hmm. votre lèvre aura telle taille, etc. Je ne crois pas avoir dit ce genre de choses.
Non, et puis d'ailleurs, c'était pas un problème pour
c'était
moi.
Pas
enfin,
c'était
pas le sujet. Mm-hmm. Je n'ai jamais pensé à ça.
Quant à l'avis au deuxième chirurgien, il y a des patients qu'on pousse à aller demander un deuxième avis.
Quand il y a envie de sentir le doute.
Ah, mais tout de suite. Mm-hmm. On dit surtout, allez voir quelqu'un d'autre. Faites-le. Et d'ailleurs, en général, plus on dit ça à un patient, plus il revient vers vous. Mm-hmm. Il y en a certains. Enfin, oui.
Isabelle, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors moi double voire triple émotion là en fin d'émission. Je voulais d'abord saluer Philippe Lançon pour son livre, son magnifique texte qui vraiment au-delà de l'horreur, c'est pour moi ça a été un hymne à la vie extraordinaire. C'est avant tout l'histoire d'une reconstruction et qui résonne sans doute avec un grand nombre de gens comme moi qui ont été confrontés à la maladie. Et puis, je voulais en deuxième point saluer Chloé, qui est aussi ma chirurgienne. J'espère que Philippe Lançon ne m'en voudra pas de partager ce mât. Voilà, ça a été aussi ma fée. Excusez-moi, je suis très émue. Et c'est une fée parce qu'elle a ces qualités qu'ont les chirurgiens d'être dans l'acte technique. Et puis, elle a toutes ces qualités humaines extraordinaire, toute cette empathie à l'égard de ses patients, tout ce dévouement et également qu'il faut saluer à l'égard du service public. Hein.
Isabelle Chloé est en train de chercher dans sa tête ce qui vous pouvait bien être.
Il faut que je dise mon nom.
Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes absolument pas obligé. C'est comme ça que c'est bien aussi. Mais allez-y, je vous en prie, finissez, Isabelle.
Je la vois la semaine prochaine.
Ah ben voilà.
Non, voilà. Moi, je n'ai pas du tout eu le parcours de Philippe. Hein. C'était une toute petite bricole, d'ailleurs, le livre de Philippe nous permet sans doute vraiment de relativiser. Hein. Moi, j'ai été confrontée plusieurs fois au cancer, c'est tout à fait autre chose. Mais enfin, je voulais dire donc...
Ça y est, elle vous a reconnu, elle vous salue.
À Philippe, vraiment, que je pense que son livre va me porter jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Bah, y compris Chloé, en fait, finalement, tous les deux. Donc voilà, beaucoup d'espoir à tous les gens qui traversent des moments difficiles. Lisez le livre de Philippe et allez voir des gens aussi bienveillants que Chloé. Voilà.
Bah écoutez, formidable, Isabelle. Merci beaucoup. Chloé vous a reconnu au passage. Ils sont contents tous les deux. Donc franchement, c'est formidable. J'ai une dernière. Il nous reste une petite minute. Une dernière chose. Moi, je voudrais savoir, Philippe Lançon, pourquoi c'était si difficile de sortir en fait. Pourquoi il a fallu, pardon de le dire comme ça, que Chloé vous sorte de l'hôpital un peu quand même. Pardonnez-moi, un coup de pied dans le cul.
Carrément.
Parce que c'est le lieu qui m'a sauvé. Donc,
mais ce qui vous faisait peur, c'est sortir du cocon ou c'est rentrer dans la vie, sortir, montrer vos cicatrices.
J'avais pas du tout de problème esthétique ou de cet ordre-là. C'était pas ça du tout la question. La question, je pense, c'est que j'étais quelqu'un que cette expérience de l'attentat avant tout avait énormément fragilisé et que l'endroit où je me sentais le plus fort. C'était le cocon. Mmh. C'était là que j'avais pris mes marques. C'était là que j'avais réappris à avoir un rapport, pas égalitaire, mais un rapport où je pouvais faire valoir ce que j'étais et mes armes, depuis mon lit, etc., jusqu'au bloc. Et donc, de cet endroit, je ne voulais pas sortir parce que je savais qu'il me faudrait beaucoup d'énergie pour affronter la suite.
Et vous l'avez trouvé, l'énergie, pour affronter la suite. C'est ce que vous prouvez, vous l'avez fait avec votre livre et que vous prouvez régulièrement et que vous faites aussi avec nous. Merci beaucoup à tous les deux de ce partage. Merci à vous pour vos appels. Merci pour vos émotions. On est en retard, mais pour une fois, c'est pas grave.